Dieu.
Amen. C'est magnifique. Et bientôt le disque va sortir de toutes ces merveilles. Que Dieu soit béni. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Tout le monde va bien?
Oui.
C'est bien. On va lire 2 Corinthiens 5, 17 à 18, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 5, 17, 18.
Je dis bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur Révélation Bible. Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on fait un petit essai avec la vidéo. Je ne sais pas si ça va marcher. C'est une nouvelle caméra. Je ne sais pas trop. On verra. Je commence. 2 Corinthiens 5, 17, 18. Si quelqu'un est uni au Messie, c'est-à-dire au Christ, à Jésus, il est une nouvelle création. Tout ce qui est ancien est passé. Voici, une chose nouvelle est arrivée et cela vient de Dieu qui, par Jésus-Christ, nous a réconciliés avec lui-même et nous a donné l'œuvre de cette réconciliation. Amen. Alors, mes frères et sœurs, je reçois pas mal de messages, parce que maintenant que nous avons une page Facebook, je vous encourage à aller sur cette page Facebook qui s'appelle Révélation Bible, en 2 mots hein, cette fois, eh bien, nous avons beaucoup de monde qui vient, de plus en plus, et alors des commentaires, et puis des gens qui m'écrivent aussi sur, comment on dit, Messenger, en privé, parce qu'ils ont des choses importantes à me dire, et beaucoup de gens souffrent parce que ils ont dans leur famille ou dans leur parmi leurs amis des gens qui ne connaissent pas Jésus et voudraient leur présenter le Seigneur. Seulement, ils le font sur le ton de la conversation, ce qui fait que les gens les interrompent, leur posent des questions sur le Big Bang, sur l'origine de la semoule, enfin n'importe quoi. Alors, c'est très difficile quand c'est sur le ton de la conversation. Il faut diriger la conversation. Et pour cela, il faut demander poliment aux gens, écoutez, donnez-moi 10 minutes, hein, et puis je vais vous expliquer quelque chose et après on discutera. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Pourquoi je pense que c'est comme ça qu'il faut faire? Parce que ça fait 50 ans que je fais comme ça. j'ai appris cela à Tin Challenge, l'œuvre de David Wilkerson. Ils nous ont appris comment. Alors nous avions des cafés-bars dans Paris, on en avait 3, j'étais responsable de ces 3 cafés-bars. Et alors, on avait des tables, et à chaque table, il y avait un équipier avec une Bible, et puis il y avait des jeunes gens, des jeunes filles qui venaient nous servir à boire, des limonades et des machins comme ça, gratuitement. Et puis alors, on évangélisait. Et c'était la méthode que nous avions pour évangéliser, et nous remportions beaucoup de succès. Et c'est comme ça qu'on fait quand on parle avec des gens, qu'on n'est pas en train de prêcher dans une église, mais qu'on parle avec des gens. Je vais vous expliquer tout ça ce matin. Vous êtes en Christ. Hein, vous. Je m'adresse à des personnes qui sont en Jésus-Christ, qui ont fait la paix avec Dieu. Et vous êtes une nouvelle créature. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus du tout la personne que vous étiez avant. Ça, déjà, il faut savoir. Dieu a créé Adam, Ève, innocent. D'accord? Bon. Et ils se sont détournés de Dieu volontairement. Et depuis, le monde est pris dans le piège du malheur, de toutes sortes de malheurs, de toutes sortes de malheurs. Mais Dieu, dans son amour, nous a envoyé Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et ceux qui croient en lui sont des êtres qui sont au bénéfice de la bénédiction de Dieu. La colère de Dieu ne demeure plus sur eux. Et ils deviennent une chose qui n'a jamais existé depuis Adam et Ève. Même qui n'a jamais existé du tout. Je vous expliquer pourquoi. Nous sommes de nouvelles créatures. Nous sommes même pas comme Adam et Ève qui, eux, étaient innocents. Nous sommes pas innocents, nous sommes innocentés. C'est très différent. Adam et Ève, ils se promenaient dans le jardin d'Éden. Complètement innocents. Nous, pas. On a goûté au péché, on sait ce que c'est le péché, mais on sait aussi ce que c'est l'amour de Dieu qui nous a pardonné. Donc, on se sait innocentés. C'est très différent. Mais ça nous remet dans une position de réconciliation avec Dieu. Nous nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous sommes purifiés aux yeux de Dieu. Peut-être que les gens ne voient pas, peut-être que les gens ne pensent pas, peut-être que les gens ne croient pas, mais nous sommes justifiés aux yeux, purs devant les yeux de Dieu. Dieu nous a réconciliés avec lui-même par Jésus-Christ. Il nous a confié à tous l'œuvre de la réconciliation, c'est-à-dire le ministère de la réconciliation dans d'autres versions de la Bible. Je ne sais pas quelle version vous avez, mais là, j'utilise la version la Bible juive complète, une nouvelle version de la Bible par David H. Stern. Ça fait longtemps que je vous en parle et que je vous la recommande, elle est très bien sur beaucoup de points. Donc, il n'y a aucune qui est parfaite, mais ça, il y a beaucoup de choses qui sont très bien dans cette version-là. Maintenant, des siècles ont passé, et pendant tous ces siècles, beaucoup de gens se sont prétendus des envoyés de Dieu, pour des représentants de Dieu, et ils ont fait profession de servir Dieu, et c'est devenu maintenant dans l'inconscient collectif, les serviteurs de Dieu, c'est ceux qui parlent devant les foules, devant avec un micro, et puis les autres, c'est pas les serviteurs de Dieu, c'est juste des brebis bêlantes ou je sais pas quoi, mais c'est faux. Aujourd'hui, Jésus a, dans son amour, rétabli toute chose, et ceux qui croient en lui, maintenant, nous savons par les Écritures que nous sommes des êtres au bénéfice de sa bénédiction et que nous sommes devenus une chose qui n'a jamais existé depuis Adam et Ève. Nous sommes de nouvelles créatures, pas innocentes, mais innocentées, et nous sommes des ministres de Dieu, tous. Nous sommes des ministres, nous avons le ministère de la réconciliation. Il faut que vous vous preniez au sérieux. Un ministre qui dort, vous savez, il y a beaucoup, on les voit, n'est-ce pas? Ils dorment pendant les... Nous ne sommes pas des ministres qui dormons. Il faut que nous soyons au travail. Dieu nous fait confiance. Et il faut que maintenant nous sachions que ce n'est pas aux ecclésiastiques professionnels que Dieu veut, c'est pas par eux que Dieu veut annoncer la bonne nouvelle. Bien sûr, ils le font, mais c'est pas par eux, parce qu'ils sont minoritaires. C'est par nous, qui sommes des simples fidèles à Jésus-Christ. Vous êtes devenus des ministres de Dieu, vous avez un ministère, celui de la réconciliation. Vous avez le ministère, votre tâche est de réconcilier les gens avec Dieu. Quiconque est en Christ est une nouvelle créature et Dieu lui confie le ministère de la réconciliation. C'est ce que je vous ai lu dans 2 Corinthiens 5. On ne peut pas contester la parole de Dieu. Tous les vrais chrétiens, individuellement, ont le ministère de la réconciliation des gens avec Dieu. En leur expliquant le plan du salut offert par Jésus-Christ, notre Sauveur. Il faut expliquer ce plan. Parce que si on ne leur dit pas, la Bible dit, comment sauront-ils si personne ne leur en parle? Et il faut leur parler. Les ministres, ça parle. Et nous sommes là pour parler, pas seulement pour prier pour le salut des gens. Quelques personnes me disent, je prie pour le salut du monde, blablabla. C'est très gentil, c'est bien. Mais il faut y aller aussi dans le monde. Jésus a dit, allez partout le monde et prêchez. Prêcher, prophétiser, témoigner, parler, tout ça, étymologiquement, c'est le même mot. Nous avons à parler, à expliquer clairement le plan du salut. Vous êtes, Jésus a dit à Pierre, tu es pêcheur, tu as pêché les poissons, tu es pêcheur de poissons, maintenant je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Dans le vocabulaire moderne, on pourrait dire un gagneur d'hommes, un gagneur de... On gagne des gens pour Jésus-Christ. Tous, sans distinction, tous, de toutes les origines ethniques, quelle que soit la couleur de votre peau, quelle que soit votre nationalité, votre sexe, peu importe tout ça, quiconque croit, parle. Voilà. Quiconque reçoit de Dieu, partage. Devenir un disciple de Jésus, c'est devenir un témoin de Jésus. Un missionnaire, un évangélisateur, voilà ce que c'est que être un chrétien, avant tout. C'est pourquoi je vous dis, parlez chaque jour du Seigneur à quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce que les gens entendraient 50 fois l'évangile alors qu'il y en a qui n'ont jamais entendu du tout? Mais vraiment l'entendre, écouter vraiment le message de l'évangile. Pas simplement dire « Jésus t'aime, que Dieu te bénisse », c'est très bien, mais... c'est pas vraiment prêcher l'évangile. Le ministère le plus cher au cœur de Dieu, c'est votre ministère. Le ministère de la réconciliation. C'est pour cela que Christ est mort et qu'il a versé son sang. Et juste avant de repartir au ciel, il a dit d'aller faire cela. C'est-à-dire d'aller témoigner et de faire des gens des disciples, de leur parler, de leur expliquer. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle du salut. Marc chapitre 16, Matthieu chapitre 28,
Vous savez ça, n'est-ce pas? Mais vous attendez que ce soit les bons pasteurs ou les évangélistes qui le fassent. C'est pas juste, c'est vous qui avez le ministère de la réconciliation. Eux aussi, bien sûr, mais c'est surtout vous. Parce que vous êtes nombreux. Vous savez, si le Saint-Esprit nous a été donné, c'est pour que nous soyons des témoins puissants. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous pour cette raison. C'est le but de notre vie chrétienne. C'est le but. Lisons ce que Dieu dit par son prophète Ézéchiel au chapitre 3 et verset 18. Ézéchiel 3, 18. Je lis. Si je dis à un méchant, tu mourras. C'est Dieu qui parle, hein, il dit. Si je dis, Dieu dit. Si moi je dis à un méchant, tu mourras. Et que toi, tu négliges de l'avertir, de lui parler, afin qu'il abandonne sa mauvaise voie et sauve sa vie, ce méchant mourra dans sa culpabilité et je te tiendrai responsable de sa mort. Voilà ce que Dieu dit. Par contre, si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté ou de sa mauvaise voie, il mourra tout de même dans sa culpabilité, mais tu auras sauvé ta propre vie. Est-ce que ça veut dire que tu vas aller en enfer si tu ne leur parles pas? Non, mais tu auras été utile à quelque chose d'important pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Mais attention, c'est très important, c'est Dieu qui dit ça. C'est Dieu qui dit ça. Ma plus grande satisfaction, frères et sœurs, dans ma vie, c'est de partager Jésus-Christ avec les autres. C'est de leur expliquer la bonne nouvelle du salut. La bonne nouvelle du salut gratuit en Jésus-Christ. Est-ce que ça ne serait pas terriblement égoïste de savoir ce que Jésus a fait pour nous sauver, nous, quand nous étions des incroyants, d'accepter ce salut merveilleux, de recevoir sa paix, d'être réconcilié avec Dieu, et de ne pas en parler aux autres? Ça ne serait pas de l'égoïsme, ça? Mais ça serait épouvantable. Moi, je me rappelle, pendant un temps, je vendais un produit qui était extraordinaire, mais je me levais pas le matin en disant « Oh, il faut que j'aille au boulot pour vendre mon produit ». Non, j'aimais tellement ce produit que pour moi, c'était facile de le vendre parce que j'en parlais avec enthousiasme, parce que je croyais dans ce produit, parce que j'aimais ce produit. C'était normal pour moi d'en parler. Eh bien, avec Jésus, c'est la même chose. Si vous aimez Jésus, c'est normal d'en parler. Mais le problème, c'est que, voilà, peut-être vous vous y prenez un petit peu mal, et c'est peut-être pour ça que, des fois, ça rate. Vous savez, ça fait 20 siècles que l'évangile est propagé par de simples chrétiens. C'est l'amour de Christ qui nous contraint de parler aux autres de son salut, du salut qu'il est venu offrir gratuitement. Par dizaines de milliers, des chrétiens ont été persécutés et sont encore aujourd'hui persécutés de par le monde à cause de leur témoignage. Quelqu'un a dit, je ne sais plus qui, le sang des martyrs, c'est la semence de l'Église. Je vais sans doute vous apprendre une chose, à certains d'entre vous, le mot martyr vient du grec ancien martus, qui signifie témoin. Un martyr, c'est une personne qui va jusqu'à se laisser tuer en témoignant de sa foi plutôt que d'abjurer ou d'être tiède et pas oser en parler. Alors que des milliers sont morts et encore aujourd'hui parce qu'ils veulent partager, parce qu'ils ont voulu partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ et de son salut merveilleux, nous ne pouvons pas garder cette bonne nouvelle pour nous et puis compter simplement que ce soit les autres qui le fassent. Nous la partageons avec les autres. C'est l'essence même du christianisme en action. Vous savez, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études bibliques très approfondies pour pouvoir conduire quelqu'un à Jésus-Christ. Moi, le jour même, quand je me suis converti, le soir même, j'ai gagné ma mère et mon frère à Jésus-Christ. Qu'est-ce que je savais? Qu'est-ce que je pouvais leur enseigner? C'était le quelques heures après m'être converti. Ben, je leur ai dit ce que j'avais vécu. Voilà, ce que je savais. Ce que Raphaël avait prêché, tout simplement, que Jésus-Christ était mort pour mes péchés, il était mort à ma place. J'ai dit, mais il est mort à votre place aussi. Et si vous croyez, toute chose devient... Je leur ai expliqué. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer. Pas besoin non plus d'avoir la parole très facile. Parce que la Bible, elle parle, et c'est la Bible que vous allez faire parler. C'est pas vous qui allez donner des arguments et commencer à expliquer des trucs et des machins et vous perdre pour des théologies foireuses. Non, c'est la Bible qui parle. Donc, pas même, vous n'avez même pas l'excuse de dire « Oh oui, mais j'ai pas la parole facile. » Parlez de Jésus aux autres comme vous leur parliez de votre meilleur ami, tout simplement. En fait, il vous suffit de connaître au moins un verset d'un évangile. C'est au moins Jean 3,16. Hein, je vous ai conseillé souvent de prendre avec vous un papier, un stylo, puis d'écrire. Alors écrivez. Il faut que vous connaissiez au moins Jean 3,16. Jean 3,16, c'est « Dieu a tant aimé le monde, tout le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça, c'est le plan de Dieu en gros. C'est expliqué. C'est pas par autre chose qu'il faut croire en lui pour avoir la vie éternelle. Mais après, on développe un peu. Et là, quelques textes de l'apôtre Paul vont vous aider. Ça va vous aider à conduire les gens à Jésus-Christ. Alors, comme je vous disais au début, ce qu'il faut faire, c'est leur dire, écoute, laisse-moi 7 à 10 minutes pour que je puisse te parler. Ne m'interromps pas, parce que tu m'interromps, moi je suis pas un intellectuel. Je vais me paumer dans toutes sortes. Alors, laisse-moi, s'il te plaît, sois gentil. Laisse-moi te parler 7 à 10 minutes tranquille. Tu me promets, il va te dire oui, puisque les gens sont polis en général, hein. Si tu dis non, je veux pas, bah tu dis bon, ben voilà. Et ce qu'il faut, c'est choisir un moment propice où les gens sont calmes. Hein, si vous voyez quelqu'un qui est en train de travailler sur quelque chose de minutieux, il va lui dire, ça n'aurait pas 10 minutes, hein, quoi. Non, attendez, un moment propice, hein. Je sais que la Bible dit qu'on doit prêcher à toute occasion favorable ou pas. Mais quand même, faut être sage. Il nous faut trouver donc un moment, voilà, et puis leur dire, laisse-moi te parler. Et puis, il faut que vous ayez avec vous votre Bible. Ou au moins un Nouveau Testament, c'est moins gros. Hein, vous pouvez avoir votre Nouveau Testament avec vous. Alors, premièrement, ce que vous leur dites, vous leur montrez qu'ils ont besoin de cette bonne nouvelle que vous allez leur donner. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous leur montrez ça, ça se trouve dans Romains chapitre 3, verset 23. Vous leur faites lire, vous lisez même pas vous-même. Vous leur dites, tiens, lis ça. Et ils vont lire Romains chapitre 3, verset 23. Et ils vont apprendre que la Bible dit que tous ceux qui sont péchés, tous ceux qui ont péché sont privés de la présence de la gloire de Dieu, ils sont coupés de Dieu, ils sont séparés de Dieu. Voilà. Et tu leur dis, mais c'est normal que vous y croyez pas, vous êtes séparés de lui. Ensuite, vous leur montrez dans la Bible que vous pouvez gagner, qu'ils peuvent gagner beaucoup en venant à Jésus et que vous pouvez leur montrer ce qu'ils ont à gagner en vivant dans le péché. Alors voilà, vous reprenez la Bible et puis vous leur faites lire Romains chapitre 6 et verset 23. Alors Romains chapitre 6 et verset 23. Et vous leur faites lire, et ils vont lire eux-mêmes, j'insiste bien, car ce qu'on gagne en péchant, c'est la mort. Ils me disent, oui, mais tout le monde meurt. Et là vous dites, oui, mais c'est la mort, c'est-à-dire la séparation d'avec la vie, c'est-à-dire la séparation avec le créateur de la vie, la séparation d'avec Dieu, c'est-à-dire que quand tu meurs, là tu vas en enfer, c'est la mort, c'est la séparation avec Dieu. Et puis tu continues, vous continuez à expliquer. Vous leur montrez dans la Bible qu'il y a un remède que Jésus donne. Vous montrez ça dans Romains chapitre 5, verset 8. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, le Messie, Jésus, est mort à notre place. Il s'est substitué à nous. Et vous expliquez, il s'est substitué à toi, il est mort à ta place, voilà ce que Dieu a fait pour toi. Et puis, donc vous lui faites bien lire Romains chapitre 5, verset 8, il faut qu'il le lise, il faut que la personne le lise. Puis, vous leur montrez toujours dans la Bible que le salut éternel est un cadeau de Dieu. On ne mérite pas un cadeau. Un cadeau, c'est donné par quelqu'un qui nous aime. Dieu nous aime et nous donne le salut éternel. Vous leur montrez ça et vous leur faites lire Romains 6, 23. Vous notez tout ça? Romains 6, 23. Et puis, vous terminez en leur montrant dans la Bible comment recevoir Jésus-Christ
est le salut qu'il offre en lisant, en leur faisant lire Romains chapitre 10, versets 9 à 10, on va le lire ensemble. Romains 10, 9 à 10. Voyez, moi ce que je fais, je mets des petits papiers pour retrouver vite fait les versets. Romains 10, 9, 10. Voilà ce qui est dit, c'est tout simple. Car c'est la parole de foi que nous proclamons, à savoir, si de ta bouche tu reconnais publiquement que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois avec confiance que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras délivré. Car c'est avec le cœur qu'on parvient à la foi, et c'est ainsi qu'on obtient la justice. C'est en disant publiquement avec notre bouche qu'on obtient la délivrance. Et le passage cité déclare que tous ceux qui mettent leur confiance en lui ne seront pas humiliés. Cela signifie qu'il n'y a pas de différence entre les juifs et les païens, parce que Dieu est le même Dieu pour tous, et il est riche pour tous ceux qui font appel à lui, car tous ceux qui font appel à lui au nom du Seigneur Jésus-Christ sont délivrés. Délivrés du péché, délivrés de l'enfer, délivrés. C'est pas compliqué de leur faire lire ça, et puis ils vont le comprendre. Ils sont pas bouchés au point de pas comprendre, n'est-ce pas, ce que vous leur montrez dans les Saintes Écritures. C'est pas compliqué. Tout le monde peut comprendre que Dieu aime ce qu'il a créé. Et nous sommes son ouvrage. Vous leur montrez, vous leur faites lire Éphésiens 2:10. Et vous leur dites, mais tout ce qui existe a été créé par quelqu'un. Regarde ma montre, c'est un horloger qui l'a fait. Il y a rien qui existe sans qu'il y ait quelqu'un qui l'ait fait. Et toi, c'est Dieu qui t'a fait. Mais tu le sais pas parce que t'es séparé de lui à cause de ton péché. Tu peux même pas avoir conscience de son existence. Mais si tu reconnais que t'es pécheur, alors tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas commencer à comprendre les choses. Ensuite, tout le monde peut comprendre que quelque chose est arrivé pour que Dieu et les humains soient séparés comme ils le sont à l'heure actuelle. C'est pas compliqué à comprendre. Vous leur montrez Genèse 2, 16-17, où il est dit que, en fait, c'est Adam et Ève. Non, pardon, c'est Ève d'abord, puis Adam après. Ils ont volontairement voulu se séparer de Dieu. Volontairement. Ils n'ont pas cru ce que Dieu disait. Ils n'ont pas fait confiance à Dieu. Ça, c'est la pire chose qu'on puisse faire à quelqu'un. Nous sommes créés à l'image de Dieu, et si quelqu'un nous fait pas confiance, c'est très difficile d'avoir une bonne relation avec lui, n'est-ce pas? C'est ce qui s'est passé entre Adam et Ève et Dieu. Ils ont arrêté de faire confiance à Dieu, ils ont fait confiance au diable, la relation était cassée. Et puis, je vais vous faire rigoler un petit peu, mais pourquoi est-ce que ça nous atteint, nous? Parce qu'on était en Adam. Comme vous étiez dans votre père avant de venir au monde, comme votre père était dans son grand-père avant de venir au monde, vous l'avez fait rigoler un petit peu avec ça. Oui, on était dans Adam, et puis quand il a péché, le péché s'est entendu au monde entier, et puis maintenant, on est dans ce système pourri, et voilà, c'est comme ça. Ensuite, tout le monde peut comprendre, donc, que le fait qu'Adam ait volontairement voulu se séparer de Dieu, ça a vexé Dieu. Et tout le monde peut comprendre que la relation entre Dieu et les hommes était compromise à cause de ce manque de respect. C'est pas difficile à comprendre. Moi, il y a un jour, quelqu'un qui m'a dit sur un perron quelque part, « Je ne te fais plus confiance. » Là, c'était fini. Ça a été fini. J'attends qu'il me refasse confiance pour que la relation soit rétablie. Mais il suffira pas qu'il me le dise, qu'il me le prouve. Vous comprenez? C'est ça, avec Dieu, c'est pareil. C'est pareil. C'est la pire des choses qu'on puisse faire à quelqu'un de dire « Je ne te fais pas confiance. » C'est terrible. C'est terrible. Dieu avait averti que s'ils désobéissaient, ils mourraient. Ils n'ont pas cru, ils n'ont pas fait confiance. Résultat, ils sont devenus des mortels. Et nous sommes devenus des mortels, nous mourrons. Et puis si nous mourrons toujours en étant séparés de Dieu, on est séparés de Dieu éternellement. Puis c'est comme ça. C'est notre faute. Ils sont devenus mortels. Par eux, le péché, l'erreur, péché ça signifie erreur, est entré dans le monde, et le péché, et puis en plus, nous avons péché nous aussi. C'est pas seulement la faute d'Adam et Ève, c'est aussi notre faute, parce qu'on pourrait très bien dire non, mais... Non, on dit pas toujours non au péché. Et puis, vous pouvez leur faire comprendre, en disant 2 Pierre 3:9, que Dieu ne veut pas que le pécheur meure. C'est pas son désir. Il n'est pas en train de se dire, bien fait, hein. Non, pas du tout. Simplement, ce qu'il attend, c'est qu'il se repente, c'est-à-dire qu'il reconnaisse sa faute, et puis d'ainsi rétablir la relation. C'est que ça. C'est que ça. Ensuite, vous leur montrez et vous leur faites lire Romains 3, 21 à 27. Romains 3, 21 à 27. Alors ça, c'est extraordinaire. Maintenant, c'est l'apôtre Paul qui écrit, maintenant, indépendamment de la loi de Moïse, Dieu a montré clairement comment il peut justifier les hommes à ses yeux, bien que cela soit également attesté par la loi de Moïse et des prophètes. C'est une justice qui vient de Dieu par la fidélité de Yeshua Jésus le Messie à tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Car il n'y a pas de différence entre le juif et le païen puisque tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu. Par la grâce de Dieu, sans qu'elle ait été méritée, il a accordé à tous d'être considérés justes à ses yeux au travers de l'œuvre rédemptrice accomplie par Yeshua, Jésus le Messie, qui nous a délivrés de l'esclavage du péché. Dieu a exposé Yeshua, donc Jésus, comme le puni dans l'histoire pour les péchés du monde, sur la base de la foi dans le sacrifice sanglant de sa mort. Dieu avait dit, bon, vous avez péché, pour être pardonné, il faut verser du sang. C'est pourquoi les juifs tuaient des veaux, des vaches, pas des cochons, non, des veaux, des vaches, des pigeons, des colombes, toutes sortes de bestioles. Puis Jésus est venu, il a offert sa vie en sacrifice une fois pour toutes, à votre place. Comme ça, maintenant, si vous croyez ça, si vous faites confiance à cela, eh bien, vous êtes sauvés. C'est pas difficile d'expliquer ça. Et eux, c'est pas difficile pour eux de le comprendre. Je dis pas de le croire, mais au moins de le comprendre. Dieu a voulu ainsi prouver sa justice, lui qui, dans sa patience, était passé sans punition ni rémission sur les péchés commis par le peuple autrefois, et il a prouvé sa justice dans le temps présent en montrant lui-même qu'il est juste et qu'il est également celui qui justifie les hommes sur la base de la foi, de la confiance en Jésus. Y a-t-il encore une raison de se vanter, de se glorifier soi-même? Non, aucunement. Quelle sorte de loi empêche cela? Celle qui consiste à observer les règles de manière légaliste? Non, mais plutôt une loi qui agit par la confiance en Dieu, la loi de la confiance de la foi. La confiance, c'est pourquoi nous estimons qu'une personne est considérée juste sur la base de la confiance qu'elle met en Dieu, ce qui n'a rien à voir avec l'observance légaliste des commandements de la loi de Moïse. C'est un peu long, alors vous développez peut-être un petit peu. Alors dites, voyez, maintenant, aujourd'hui, indépendamment de la loi de Moïse et de toutes les bonnes œuvres que l'Église catholique ou protestante vous dit de faire, indépendamment de tout ça, aujourd'hui Dieu montre, par les Écritures, je vous l'ai fait voir, par les prédicateurs de l'Évangile, comme moi, comme d'autres, il a montré clairement quoi? Comment on peut être rendre pur à ses yeux? À ses yeux, faut bien insister là-dessus. Il va pas vous rendre hyper saint avec l'auréole, il va pas faire de vous une personne qui n'a plus aucun défaut, il va pas faire de vous une personne qui est dans l'impossibilité de commettre des péchés, non, il va vous rendre pur à ses yeux. À ses yeux. Et ça, ça vient de sa décision. À cause de la fidélité de qui? De vous? Non. À cause de la fidélité de Jésus qui a donné sa vie à votre place. Maintenant, il est mort à votre place. Et la chose que vous avez à faire, c'est de croire que c'est vrai, de lui faire confiance. Et si vous lui faites confiance, la relation est rétablie. La seule chose à faire pour qu'il décide de vous voir pur, de vous voir juste, c'est que vous décidiez de croire en lui, de lui faire confiance, de faire confiance que ce que Jésus a fait à la croix est suffisant pour qu'il puisse vous voir juste et pur. Les gens disent, non, mais c'est trop facile. Ah, non, c'est pas facile.
C'est pas facile. Pourquoi? Parce que votre conscience, elle n'arrête pas de vous accuser.
Oui, avec tout le mal que tu fais, toutes les mauvaises pensées que tu as, c'est pas possible que Dieu t'aime, et ni, et gna,
et vous allez devoir, pendant un bon moment, lutter là contre. C'est pas facile de baser notre foi tout simplement dans le salut gratuit offert par Jésus. C'est pas si facile que ça. La seule chose que vous avez à faire, lui faire confiance, croire qu'il vous aime, que Jésus a porté votre châtiment, le châtiment que vous méritiez à votre place. Vous leur expliquez ça. Vous leur dites ça. C'est pas compliqué. Ce cadeau, c'est Dieu qui vous le fait. Vous et moi, nous ne méritons pas d'être graciés. C'est un simple cadeau, un pur cadeau, une grâce, on appelle ça dans le langage religieux. Il m'a fait grâce, il m'a fait un cadeau, il m'a offert le salut. Nous ne pouvons rien faire pour mériter d'aller au ciel. Rien de rien de rien. Vous ne pouvez rien faire pour mériter d'aller au ciel. Dieu a décidé d'accorder à tous ceux, à tous, d'être considérés comme justes à ses yeux. À qui? À tous ceux qui croient ça. À tous ceux qui croient dans son plan du salut. C'est lui qui a fait ce plan, c'est lui qui l'a décidé, et c'est lui qui nous le propose. Vous l'acceptez ou vous ne l'acceptez pas. Si vous l'acceptez, Jésus dit que vous êtes pur aux yeux de Dieu. Adam et Ève n'ont pas fait confiance à Dieu, relation brisée. Vous faites confiance à Dieu, relation rétablie. Voilà. Alors vous n'avez plus de sacrifices à faire, ni de bonnes œuvres à faire pour être sauvé. C'est fini. La plus bonne œuvre à faire pour être sauvé, Dieu vous demande juste que vous lui fassiez confiance. Et c'est ça qu'on appelle la foi. Il y en a qui disent « j'ai pas la foi ». C'est parce que vous voulez pas avoir la foi. Ou parce qu'on vous a pas enseigné qu'est-ce que c'est la foi. C'est tout. Mais maintenant que je vous ai enseigné, maintenant que vous avez vu dans la Bible, vous leur dites comme ça, maintenant que vous avez vu dans la Bible, vous pouvez avoir la foi, c'est vous qui décidez. Ah, ça les met devant leur responsabilité, vous comprenez ? Si vous croyez en lui, mais que vous pensez que quand même, il faut que vous soyez meilleur pour pouvoir mériter le ciel, c'est que vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Ou alors faites semblant d'avoir pas compris. Ou alors vous êtes orgueilleux et vous pensez que ce que Jésus a fait à la croix, ben c'est pas suffisant, il faut que vous en rajoutiez une couche. C'est la pire insulte qu'on puisse faire à Dieu. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et vous dites, oui, mais il faut encore que je fasse des neuvaines, il faut encore que je fasse brûler des bougies, il faut que j'aille faire des pèlerinages, il faut que je sois gentil avec ma voisine. Bien sûr, tout ça, c'est pas mal de faire tout ça. Faites-le si vous voulez, mais ça va pas vous sauver. Ce qui vous sauve, c'est votre confiance en Dieu qui vous a sauvé une fois pour toutes, c'est clair. Et quand vous arriverez devant Dieu, après votre mort, ben vous ne pourrez pas vous vanter d'avoir fait quelque chose pour mériter le ciel. Quand vous allez voir comment il est Dieu, vous allez vous sentir tellement minable avec vos bonnes œuvres que vous allez avoir honte, vous aurez la bouche fermée, vous n'oserez rien dire. Tout le bien que vous faites en tant que croyant, ça ne vous sauve pas. Le bien que vous faites en tant que croyant, ça ne fait qu'accumuler des trésors de récompenses dans le ciel. Et vous aurez toutes ces récompenses dans le ciel. Et ça, c'est une autre chose, c'est les récompenses. La Bible en parle. Mais ça ne vous sauve pas. Jésus seul a payé votre dette. La dette que vous aviez envers Dieu à cause de vos péchés, à cause de votre manque de confiance, à cause du fait que vous l'insultiez par vos péchés et par votre manque de confiance, cette dette, elle est payée. C'est fini maintenant que vous croyez. Alors, soyez conscient qu'aucune dette ne peut être payée deux fois. Ce n'est que grâce à l'œuvre de Jésus sur la croix que vous pouvez devenir comme si vous n'aviez jamais rien fait de mal aux yeux de Dieu. Vous n'aurez jamais à passer en jugement devant Dieu pour le mal que vous avez pu faire. Ça se trouve dans Jean, dans l'évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 18. Écoutez, « Celui qui met sa confiance en lui ne sera pas jugé. » Mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà jugé parce qu'il n'a pas mis sa confiance en celui qui est le seul et unique Fils de Dieu. C'est tellement simple.
Il suffit de connaître ces versets, vous avez une liste, et puis vous voulez vous montrer aux gens, vous leur faites lire dans la Bible, et puis ils vont comprendre. C'est un plan simple qu'un enfant peut comprendre. C'est un plan simple. C'est cela le plan d'amour de Dieu qui vous sauvera, qui sauvera les gens que vous connaissez, de votre famille, vos amis, vos relations. Et c'est ce plan-là qui vous restituera à la vie, qui vous fera rentrer dans la vie dont Jésus parle quand il dit « Le diable est venu pour tuer, égorger et détruire ». On voit ça partout dans le monde. Il dit « Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance ». Et vous allez rentrer dans ce principe de la vie abondante avec lui par la bonté de Dieu, par une décision qu'il a prise lui-même, de son plein gré, personne ne l'a forcé, il l'a fait par amour pour chacun de nous. Alors voilà ce que vous avez à dire aux gens, et pour leur dire, il faut que vous preniez la Bible, parce que sinon ils vont penser que c'est vous qui l'inventez. Il faut que vous preniez la Bible, que vous leur fassiez lire les passages que je vous ai donnés, et que vous les commentez ou pas, mais c'est bien de faire un petit commentaire, mais il faut pas rentrer dans une discussion. Vous leur rappelez, ah, tu m'avais dit pendant 10 minutes, tu me laissais tranquille. Hein? Et puis, quand vous faites ça, vous participez au plan du salut pour ces gens. Parce que Jésus a bel et bien donné sa vie sur la croix, mais si personne va leur dire, ça sert à rien. Vous voyez, ça sert à rien. Après avoir dit tout ça, vous leur demandez, est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Vous leur demandez pas est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit. Vous leur dites, est-ce que vous avez compris? Ils vont vous dire oui, parce que c'est tellement simple. Ils vont vous dire oui, j'ai compris ce que tu m'as dit. Alors à ce moment-là, vous ne leur demandez pas s'ils sont d'accord que vous priez pour eux. Vous fermez tout de suite vos yeux et vous vous mettez à prier pour eux. Et vous demandez à Dieu que pendant que vous êtes en train de prier là devant eux, dans le secret de leur cœur, ils demandent pardon à Dieu pour tous les péchés qu'ils ont faits. Et vous demandez à Dieu de leur pardonner leurs fautes, et vous demandez à Dieu de les délivrer de leurs péchés, de les aider à vivre une vie nouvelle, et vous remerciez Dieu pour le bon moment que vous avez passé avec cette personne, et puis vous rouvrez vos yeux, puis vous dites à cette personne, eh bien, si tu as compris ce que j'ai dit, et si tu as demandé pardon pour tes péchés pendant que je priais, si tu as fait ça dans ton cœur, eh bien, t'es mon frère maintenant, t'es ma sœur, nous avons le même Père Céleste, tu es sauvé. Tu es sauvé sur la base de ce qui est écrit dans la Bible. Et puis vous lui offrez un Nouveau Testament ou une Bible. Et puis vous lui dites de la lire chaque jour un petit bout. Puis vous lui dites de prier aussi. Vous lui dites que lire la Bible, c'est Dieu qui lui parle. Et prier, c'est elle qui parle à Dieu. Puis vous lui expliquez que c'est bien aussi qu'elle parle à d'autres personnes, comme vous l'avez fait. Et puis dites-lui qu'il y a beaucoup de questions qu'elle doit se poser au sujet d'un tas de choses et que petit à petit, les réponses, elle va les trouver justement dans la Bible. Et puis que vous n'avez pas la prétention d'avoir toutes les réponses, que vous en avez quelques-unes et que vous vous tenez à sa disposition pour l'aider à trouver des réponses que vous avez déjà trouvées. Mais vous lui dites bien, moi je n'ai pas encore tout compris, mais une chose... C'est que j'ai compris l'essentiel, c'est comment éviter d'aller en enfer. À partir de là, le reste, ben, je veux pas dire que c'est des détails, pas du tout, parce que c'est des choses très graves, des problèmes très importants. Et nous pouvons trouver des solutions. Et peut-être que le fait qu'on parle, toi et moi, on va pouvoir trouver des solutions que moi tout seul, j'ai pas trouvées. Donc c'est bien qu'on ait une communion, qu'on partage, qu'on parle ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, c'est important. Voilà. Faites cela simplement, et vous aurez la joie de conduire des gens à Jésus. Moi, j'en ai conduit des milliers de gens à Jésus avec ce système-là. Système. Vous allez me dire, ah, c'est un système. C'est une façon de faire qui est intelligente. Si vous avez une autre façon et que vous gagnez des gens à Jésus, c'est très bien. Mais je me demande comment vous faites. Dites-moi comment vous faites, parce qu'il y a peut-être quelque chose de plus intelligent que ce que je viens de vous dire. Mais je doute, parce que ce que je viens de vous dire, c'est vraiment le plan du salut parfait. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide et que vous puissiez amener à Jésus les gens de votre famille, vos enfants, vos parents, les amis que vous avez à l'extérieur, dans le monde, et tout. Vous allez pouvoir gagner des gens. Puis petit à petit, vous allez pouvoir prendre de l'assurance et puis vous n'aurez plus besoin de parler un à un. Vous allez pouvoir parler à 10, 15 à la fois et puis petit à petit, vous allez devenir un prédicateur. C'est pas obligé, mais c'est très possible que Dieu se serve de vous pour vous
faire de vous un évangéliste dans le monde entier. Il a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Il faut déjà commencer par les siens. Alors commencez déjà avec ce que je vous ai donné et vous allez voir, ça marche. Et puis évidemment, il y a des gens aussi qui n'en veulent pas de Jésus. Mais laissez-les tranquilles. Laissez-les tranquilles. N'insistez plus. Vous savez pourquoi? Parce que les semences qu'ils ont lues dans la Bible, elles sont maintenant dans leur cœur et un jour ou l'autre, ça va donner du fruit. Priez sur ces semences afin qu'elles donnent du fruit le plus rapidement possible. Au nom de Jésus, amen. Merci mon Dieu de m'avoir aidé à donner ce message pour aider mes frères et sœurs à gagner pour ta cause des gens et pour que des gens soient sauvés et purifiés devant les yeux de l'Éternel ton Père. Merci mon Dieu. Amen. Amen. Alors, je redis encore une fois, si vous aimez mes messages, si vous aimez tout ça, vous me le faites savoir, ça me fait plaisir. Et puis vous allez sur Facebook, et puis vous cliquez j'aime, et puis vous partagez avec vos amis. Vous avez vu là, la prédication du dimanche passé, il y a 16 000 personnes qui ont été atteintes avec, il y a 45 personnes qui ont partagé avec d'autres, et puis il y a eu une centaine de personnes qui m'ont écrit à qui je réponds chaque fois, et je passe à peu près 2 heures maintenant par jour pour répondre. Faudrait que je prenne quelqu'un pour m'aider peut-être, je sais pas, on verra si ça continue comme ça. Et faites-le, c'est une façon aussi d'évangéliser, hein, c'est une façon d'évangéliser. Et puis aussi n'oubliez pas de faire des dons pour notre œuvre missionnaire, pour l'Afrique. Nous allons certainement partir au mois de septembre, octobre, et voilà, il faut de l'argent. S'il n'y a pas d'argent, s'il n'y a pas d'argent, j'irai avec le mien. Mais ça serait bien que vous puissiez venir avec moi, c'est-à-dire que vous partagiez en envoyant des dons. Et vous savez, c'est rigolo. Il y a des tas de gens qui se disent mes amis. Ils sont, ah Michel, c'est merveilleux ce que tu fais, c'est vraiment fantastique. Et alors, sur Révélation Bible, en haut, c'est marqué faites un don. Et c'est PayPal. Alors quand vous faites un don, il y a votre nom qui apparaît sur mon écran. Alors tous ces braves gens qui disent « Ah, je t'aime beaucoup !» Je vois jamais leur nom sur PayPal. Il faut aimer en action, pas seulement en parole. Hein. Alors, faire un don, c'est me faire confiance aussi. C'est me montrer que vous faites confiance et que vous croyez que ce que je fais, c'est bien. Et que vous croyez que c'est le Seigneur qui se sert de moi. Voilà, que Dieu vous bénisse, je ne veux pas trop insister là-dessus. Mais là, l'autre jour, il y a un type qui m'a dit « Ah, je me suis acheté une Rolex et tout, je suis riche. Et grâce beaucoup, grâce à toi. » Je dis « Ah, j'attends de voir un don. » J'attends de voir un don. Que Dieu le bénisse. Tu sais qui tu es, toi. Tu m'écoutes. Allez, Dieu vous garde. Au revoir, bientôt. Merci, bon Dieu. Amen.